on ne peut pas, comme généralité qui s'explique très facilement au moment où mon ami Hobsky me demandait d'intervenir dans ce colloque, je ne savais pas encore de quoi j'allais parler. J'ai donc proposé quelque chose d'assez général. Ceux qui me connaissent, qui sont nombreux ici, attendaient peut-être un exposé centré sur le dossier de la diaspora d'Égypte. Cette diaspora juive d'Égypte, dans l'Égypte hellénistique, que nous étudions ici déjà depuis 3 ans. Et cela n'aurait pas été impossible. Les richesses de la documentation papyrologique sont telles qu'elles offrent des éléments tout à fait précieux pour l'étude des rapports entre juifs et païens à cette époque. Mais j'ai cru préférable laisser le dossier égyptien tout entier à mon collègue Jean Yoyot, dont je salue la présence dans cette salle, et qui, vous venez de l'entendre, vous en obtiendra à la fin de ce colloque, dimanche prochain. De même, j'ai renoncé à toute intrusion dans le domaine du paganisme oriental, qui a été, dès l'ouverture du colloque, traité par un conférencier infiniment plus compétent. Pour ma part, je choisis, cette fois-ci, de quitter la diaspora d'Égypte, que pourtant chère à mon cœur, et de situer mon sujet dans le cadre de l'antique Eretz Israël, Syrie-Palestine, des auteurs que je prête. Plus exactement, je voudrais un peu par anticipation au séminaire que je dois faire ici au second semestre, je voudrais vous présenter quelques réflexions sur cette confrontation majeure du judaïsme et du paganisme, une de ces expériences fondatrices qui ont la qualité de faire époque, au Seir Hochem, comme disent les sages, la tentative de réforme du judaïsme vers 170 avant notre ère, qui conduira à la révolte des Maccabées, sujet d'actualité, bien entendu, en ce 5e jour de Hanouka, et l'avant-dernier du mois de Kislev. Mais je n'ai pas l'intention de vous parler de la révolte des Maccabées elle-même. Je ne parlerai non plus de la victoire, la seule victoire juive de l'histoire juive, soit notée en passant, qui est célébré par une fête. Ce qui m'intéresse, en la circonstance, ce sont les causes de l'affrontement. Problème d'une actualité autrement plus inquiétante que le souvenir de la dédicace du temple purifiée après 4 années de soupe. Il y a en cette matière un étrange divorce entre histoire et tradition. Cela mérite peut-être quelques instants d'attention. Pour la tradition, voici ce que l'on peut dire dans un journal juif, un numéro récent, Hanouka, sans doute, une des plus belles fêtes de l'année juive, rappel des événements importants de l'histoire d'Israël, révolte des Maccabées, lutte victorieuse de la petite Judée du 2e siècle avant Jésus, contre l'occupation militaire des puissants rois séleucides de Syrie, et de la persécution religieuse anti-juive, de l'envahissante civilisation hellénistique, libération de Jérusalem et réinauguration du temple débarrassé des idoles, naissance du 2e royaume juif de l'Antiquité, qui sous la conduite de la dynastie Asmonéenne se maintiendra plus de 100 ans. Cependant, l'opinion qui domine, conforme plus ou moins à une tradition juive qui, elle, remonte à une tradition très ancienne, formée déjà dans l'Antiquité. Du point de vue des historiques, tout cela est absolument inexact. Il est inexact de dire que la révolte était dirigée contre une occupation militaire de roi de Syrie, les Séleucides, sont souverains d'un empire très vaste, il est vrai qu'ils ont leur capitale à Antioche en Syrie, mais la Syrie ici est une notion trompeuse. Il figure un pouvoir sans doute issu d'une conquête, mais qui n'est pas une occupation militaire de la Judée. Il est inexact, vous allez le voir, de parler d'une persécution religieuse anti-juive. Cela relève de l'anachronisme et constitue une assez grande distorsion de la réalité historique. Et la mention d'une envahissante civilisation hellénistique est un contresens historique, dans la mesure où elle suppose l'intrusion d'une culture étrangère qui aurait été imposée au judaïsme. En réalité, c'est tout le contraire, c'est l'adhésion spontanée à une civilisation universelle de la part des juifs eux-mêmes. Pourquoi tant de contresens? C'est probablement parce qu'il s'agit là d'un souvenir qui a été accueilli d'une manière assez particulière par la tradition juive. On fête chaque année, en cette période de l'année, la fête de Hanukkah. Mais le récit historique des événements qui sont ainsi célébrés a été évacué. Vous le savez. Vous savez en effet que le récit de ces événements est consigné dans deux livres juifs, des livres des Maccabées, 1 et 2, qui ont été éliminés du canon biblique. On comprend ça pour Maccabée 2 qui a été écrit en grec, nous n'en avons qu'un résumé toujours en grec, un livre qui tend surtout à démontrer que le peuple juif est le peuple élu. Les sages de Tibériade n'avaient pas besoin de cette démonstration, de toute façon il n'y avait pas de place dans le canon biblique juif, pour un livre écrit en grec. Mais le cas du premier livre de Maccabée est différent. Il était écrit en hébreu, sous Jean Hyrcan, vers la fin du IIe siècle avant notre ère. L'original hébraïque est sans doute perdu, mais son existence est absolument sûre. Elle est attestée par de nombreux hébraïsmes de la version grecque, seul s'est conservé. Et il aurait pu trouver sa place parmi les Ketuvim, peut-être après le rouleau d'Esther, mais on lui a préféré le livre de Daniel, un autre livre juif de la même époque, mélange apocalyptique de récits romanesques pseudo-historiques, Daniel à la cour de Nabucodonosor ou de Darius, et de reflets de cette époque, et dans un déguisement prophétique et en un langage sibyllin. Et sur tout cela, un silence quasi total dans les Talmuds, à peine un écho dans le Talmud Babli, Shabbat 21b, à propos du rite des Lumières. Benoît, B à propos du rite des Lumières, faut-il allumer le premier jour les Lumières et réduire chaque jour l'une d'elles? L'opinion de Beit Shammai, ou au contraire, faut-il ajouter une lumière chaque jour pour qu'il y en ait 8, le 8e jour, parce que je vais compter le pays qu'il a. Ainsi, un juif curieux de connaître les événements dont la fête de Hanouka perpétue le souvenir, doit-il, pour cela, avoir recours soit à la Bible grecque, la Septante, soit à la Bible catholique. Pour la bonne raison que la Bible protestante, à la suite du canon juif, a également écarté les livres de Maccabée. Depuis peu de temps, on peut le trouver dans la tradition écuménique de la Bible. Et là encore, il n'aura qu'une version des événements, la version officielle juive du temps de la dynastie Hachmonaïde. Le deuxième livre de Maccabée en était une chronique de la dynastie Hachmonaïde. Resterait à confronter cette version, de fait, avec la version séleucide, la version grecque, éparpillée dans diverses sources difficilement accessibles à un lecteur non initié. Et puis, et c'est ce qu'il y a de plus délicat en la matière, une interprétation historique à proposer. Entreprise périlleuse, entreprise qui peut paraître téméraire. Cependant, ce que je vous propose d'essayer de faire ce soir. Tout commence à l'extrême fin du IVe siècle, avec les conquêtes d'Alexandre le Grand. Les Grecs découvrent les Juifs découvrent les Grecs. rencontres mémorables qui fondent les fondements. Quatrième siècle avant notre ère, bien entendu, rencontre qui fonde la civilisation occidentale. Les Grecs croient avoir découvert un peuple de philosophes. C'est très simple, pour les Grecs, le monothéisme n'est pas une religion, mais une philosophie. Et du moment qu'on trouve un peuple qui tout entier pratique le monothéisme, c'est un peuple de philosophes. Image flatteuse, bien exacte, mais qui va se détériorer progressivement. J'ai eu l'occasion de développer ce sujet, certains d'entre vous s'en souviennent, au séminaire de mon ami Léon Poliakov, il y a très exactement un an, jour pour jour. Je n'insisterai pas ici là-dessus. Les Juifs se trouvent face à un peuple païen qui leur impose sa domination. Ce n'est pas sûr. Contrairement à une légende qui a été recueillie par Flavius Joseph, qu'Alexandre, après la prise de Tyr, soit allé visiter Jérusalem. Les détails que donne Joseph montrent qu'il y eut soumission de la ville. Dieu ordonne en rêve au grand prêtre la douce d'ouvrir les portes. Il obéit. Puis s'opère le miracle. La soumission du conquérant qui s'agenouille devant les dieux de Juif. Cette histoire qui préserve et exalte l'honneur d'Israël exprime ce qu'aurait dû être tout roi hellénistique selon le cœur de Juif, respectueux des croyances ancestrales et dispensateur des privilèges. Peuple païen donc qui a dominé les Juifs, mais les Grecs ne sont pas des païens comme les autres. Des païens, les Juifs en ont vu déjà assez. Les Grecs, la grande différence, les Grecs, pour les Juifs, ne représentent pas une religion, mais une civilisation. Et plus exactement, la civilisation avec un grand C. Dans le monde antique transformé par les conquêtes d'Alexandre le Grand, l'hellénisme est symbole de civilisation universelle et de modernisme. On ne dira jamais assez l'attrait, la fascination qu'à partir de cette première rencontre, la civilisation grecque exerça sur les Juifs. Et le meilleur témoin de cette fascination, c'est la rapidité et la profondeur qui marque l'élévation des Juifs alexandrins et de toute la communauté juive en Égypte sous les Lagides. En terre d'Israël, l'hellénisme, l'hellénisation progresse aussi à pas de géant. L'absence de frontières pendant un siècle, jusqu'à environ l'an 200 avant notre ère, la Palestine reste sous l'obédience lagide, favorise cette influence. Influence qui touche toute la société juive, à commencer par le sommet. Au cœur de la place sacerdotale s'insinue le modèle de la vie urbaine grecque qui offre les signes de la supériorité sociale. Emploi d'une langue universelle, le grec, langue commune, la koiné grecque comme l'anglais d'aujourd'hui, loisirs culturels, structure politique, la cité, forme politique réputée supérieure. Pratique de techniques financières, circulation monétaire et une fiscalité moderne. L'État sacerdotal n'est pas seulement entouré de toutes parts de cités grecques ou hellénisées comme les cités de la côte phénicienne. Il subit en son sein une progression irrésistible de l'influence grecque. Changement de souverain vers l'an 200. Les Séleucides prennent la relève des Lagides avec l'aide de l'aristocratie sacerdotale. En signe de reconnaissance, Antiochos III le Grand ordonne que le peuple juif vive conformément aux lois de ses pères. Confirmation de l'autonomie religieuse et judiciaire aux suites durables. Donc, respect de la Torah, reconnaissance de l'identité religieuse juive de la part de nouveaux souverains grecs, comme sous le règne des précédents. Il n'est pas question de convertir les Juifs. Il n'en a jamais été question dans l'Antiquité païenne. Il n'est pas question de leur imposer un paganisme érigé en religion d'État. Le monde hellénistique ignore la religion d'État. Dans la cité grecque, plutôt, l'individu était intégré dans un groupe civique cimenté par une communauté politique, religieuse, juridique. Facteurs inséparables. Ne pas respecter les dieux de la cité au temps classique, tout en de la Grèce classique, est un crime qui ne pardonne pas. Socrate en a su quelque chose. Il n'est pas possible, à cette époque, il n'était pas possible pour un juif de devenir citoyen d'Athènes ou de Sparte sans se renier comme juif. Mais les temps ont changé. Dans les monarchies issues des conquêtes d'Alexandre le Grand, on peut être citoyen et sujet loyal d'un roi lagide ou séleucide. Chaque cité grecque garde ses divinités tutélaires d'autrefois, mais les peuples conquis ont leur dieu que le pouvoir royal entend respecter et qu'il protège au besoin. Un culte du souverain très formel, très superficiel et très variable suivant les lieux ne prétend nullement s'opposèrent à ce pluralisme religieux. Les Juifs de la diaspora en Égypte restent fidèles à une religion, à la religion de leur père, tout en jouissant d'un statut privilégié quasi civique, comme membre de la minorité conquérante, la minorité dominante de conquérants hellénophones. Ceux de la Syrie-Palestine sont assurés de pouvoir vivre selon leurs lois ancestrales, tout en progressant, s'ils le veulent, et autant qu'ils le voudront, dans la voie de l'hellénisation. Et c'est là tout le problème. Civilisation universelle, le paganisme grec n'est pas une religion redoutable pour les Juifs en tant que religion. Il l'est en tant que système de valeurs hérité de la cité grecque, en tant que mode de vie social, et Weltanschauung, idéologie et culture. Vivre à la manière grecque, c'est vivre l'extraordinaire aventure d'un monde moderne qui a ouvert à l'individu de larges horizons, au-delà des droites barrières séparant jusque-là cités et ethnies. Mais comment participer à cette culture sans mettre en péril une identité nationale propre? Comment rester juif et être un homme moderne? L'expérience qui culminera dans la révolte des Maccabées va apporter dans le déchirement une première réponse à cette question qui reste toujours posée. La domination séleucide en Judée rencontre d'abord, sous Antiochos III, le loyalisme du grand prêtre Simon le Juste, soutenu par le ralliement du puissant clan transjordanien des Tobiades. Un premier conflit va se produire sous le règne de Séleucos IV, Philopator, fils aîné et successeur d'Antiochos III. Conflit à la faveur, si l'on peut dire, d'un climat des dissensions internes entre les Ptobiades et le nouveau grand prêtre Onias, Onias III. Le roi envoie à Jérusalem son ministre Héliodore, avec l'ordre de confisquer les richesses du temple. Héliodore pénètre dans le temple, mais en sort les mains vides. Il a été fustigé par les anges du Seigneur, qui apparaissent juste à temps en compagnie d'un cavalier aux armes d'or pour défendre le trésor du temple. La scène que Raphaël fixera pour l'éternité dans les loges du Vatican ne pouvait déplaire aux Grecs. Apollon n'a-t-il pas défendu Delphes d'une manière semblable contre les Perses et le Gaulois? À la mort de Séleucos IV, son frère cadet, Antiochos IV, voici Antiochos IV Épiphane, lui succède en 175 avant l'empereur. Il confère le grand pontificat au frère d'Onias III, Yoshua, qui a grécisé son nom en Jason. Le du grec, du nouveau grand prêtre, ne s'arrête pas à cette opération onomastique courante chez les juifs hellénisés, en diaspora comme en Judée. Jason décide d'engager résolument le judaïsme dans la modernité. Défini la modernité par le modèle de comportement politique et de promotion sociale du monde hellénistique. Il a pour lui le roi et derrière lui la majorité de l'aristocratie sacerdotale et laïque qui détient le pouvoir à Jérusalem. Le programme politique de Jason et de ses partisans est clairement défini au premier livre de Maccabée 1:11. Faisons alliance avec les nations qui nous entourent, car depuis que nous nous sommes séparés d'elles, bien des malheurs nous ont atteints. Le séparatisme juif est reconnu comme responsable, coupable des malheurs qui s'abattent sur Israël. Pour les vaincre, il faut sortir du cadre archaïque de l'État-temple, instauré au retour de Babylone, et donner au judaïsme un cadre politique moderne. Comment le faire? C'est très simple. On va, avec l'autorisation du roi, transformer Jérusalem en cité, une polis grecque. Une polis grecque considérée comme une Antioche de Judée. Pour les intellectuels juifs hellénisés du IIe siècle avant notre ère, la cité est la meilleure forme imaginable d'organisation étatique, tout comme le sera la démocratie occidentale pour les pionniers sionistes 2000 ans plus tard. Le peuple juif, l'ethnos non judaïon, sera donc remodelé. Les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui possèdent la culture grecque, formeront le démos, le corps civique. Les autres seront ravalés au rang des périèques, habitants libres mais privés de droits civiques. Un gymnase et une éphébie seront créés, institutions indispensables au fonctionnement d'une cité et mode d'accès pour les jeunes au statut de citoyen. Au gymnase, les futurs citoyens juifs cacheront l'aspect juif de leur nudité à l'aide de faux prépuces, ça s'appelle épispasmos en grec, opération de chirurgie compensatrice, inverse de la circoncision. Il ne faut pas choquer les voisins grecs. Le culte sacrificiel au temple est maintenu. La Torah de Moshe reste en vigueur. Mais devenue un nomos grec, elle pourra désormais être modifiée par un vote, très démocratiquement, un vote de l'Assemblée des citoyens. Elle pourra être complétée par d'autres lois, élaborées de cette même manière démocratique. Ce n'est plus la Torah, entre les mains de Kohanim et par la bouche de Sofrim, qui règle la vie de la communauté, mais des organes du pouvoir régulièrement constitués. Une assemblée, un conseil des anciens, la Jérusalem, des magistrats. C'est ce régime parfaitement conforme à l'idéal politique du monde d'alors que l'auteur du deuxième livre des Maccabées dénonce comme un certain comble de l'hellénisme, acmétisme ou hellénisme. Un certain comble, car tout n'est pas encore fait. L'ouverture vers la modernité doit encore être élargie, et ce sera l'œuvre du successeur de Jason, Ménélas, un homme de caractère. Il pille le temple et ordonne la mise à mort de l'ancien grand prêtre Onias III, témoin gênant de sa politique financière. Des troubles éclatent à Jérusalem. Le roi Antiochos revient vainqueur d'une première campagne en Égypte. Nous sommes au début de l'année 169. Nouveau pillage du temple, sous prétexte de recouvrer quelques trois allées arriérées de tribus. Il ne faut pas que cela nous choque. Pas de sacrilège. C'est l'économie qui est en cause. Le temple, qu'il soit juif ou païen, et le lieu où sont conservés les trésors. La thésaurisation appelle les prédateurs. Thésauriser et piller sont des comportements complémentaires qui ressortissent à un même type d'économie. L'année suivante, 168, les choses se gâtent. Antiochos, une nouvelle fois vainqueur en Égypte, est privé de sa victoire par l'intervention d'un envoyé spécial de Rome. La rumeur amplifie la nouvelle de la débâcle. On chuchote à Jérusalem qu'il est mort. Un soulèvement populaire anti-helléniste et anti-séleucide se déclenche. Mais Antiochos n'est pas mort, il est bien vivant. Il est vivant et il revient bredouille d'Égypte, déchargeant sa colère sur Jérusalem qu'il prend d'assaut. Des pillages, encore, massacres, prisonniers juifs réduits en esclavage. Mais Lélas s'est rétabli. Une garnison militaire étrangère est installée sur la citadelle de Lacra, au Mont-Sion. Elle prend sous sa protection les juifs hellénistes, alors que le compatriote restait fidèle à la foi ancestrale, quitte en nombre la ville pour continuer la guérilla dans la campagne de Judée. C'est là que le conflit va atteindre son paroxysme. Un édit royal promulgué en décembre 167 prétend, lisons-nous dans la chronique des Maccabées, prétend supprimer la religion juive. La loi est abolie, la circoncision interdite, de même que l'observance du Shabbat et les fêtes traditionnelles. Le temple est placé sous l'invocation de Zeus Olympien. C'est l'abomination de la désolation, deligmates eremos eos, qui surmonte l'autel des Olympes. Que s'est-il passé au juste? Pouvons-nous dire, avec un auteur aussi sérieux que notre ami Josie Eisenberg, que le roi Antiochos décida de paganiser les Juifs? Devons-nous perpétuer l'image d'un roi syrien, fanatique, résolu à imposer aux Juifs un dieu étranger, à les convertir de force au paganisme? Ce serait nous enfoncer dans des anachronismes que l'historien doit récuser résolument. Essayons d'y voir un peu plus clair. Et d'abord, l'abomination de la désolation, d'énigma, Elimoseos en tête du texte grec, Chikut Shomem et ses variantes du livre de Daniel. Cela ne veut rigoureusement rien dire, ni en hébreu, ni en grec, ni en français. S'agirait-il, je cite encore Josie Eisenberg, d'une statue de Zeus au trait du roi, introduite dans le temple? L'idée est gratuite. Et la dénomination reste incompréhensible. Mieux vaut suivre la voie indiquée il y a 100 ans ou presque par le savant Nestlé, le lait, qui a montré que l'expression utilisée par Daniel est en fait une déformation du nom de la grande divinité syrienne, le maître du ciel, Baal Shamem, Belchemine en araméen, Belsamine en grec. Zeus Olympien n'est à son tour qu'une interprétation graéca de ce nom. C'est le dieu du ciel des Grecs. Mais le dieu de Juifs est aussi un dieu du ciel. Adonai Elohei Hashamayim d'Abraham, Genèse 24, 7. Terme qui deviendra une dénomination officielle dans l'usage de la chancellerie Achéménide, songez à l'édit de Cyrus dans les livres d'Ezra, et qui sera souvent employé par les auteurs juifs, canoniques ou non canoniques, d'époque hellénistique, Daniel, Enoch, Tobie, Judith. Ces équivalences sont troublantes et éloquentes. Elles nous permettent de saisir le véritable sens du changement intervenu dans les temps. Le temple de Jérusalem, en cette fin de décembre 167. Il n'est pas question de supprimer le culte du Seigneur, Dieu des Juifs, en lui substituant une divinité païenne. Nous sommes en présence d'une réforme religieuse qui s'opère au sein du judaïsme lui-même, sous le signe de l'ouverture vers le monde moderne. C'est l'aboutissement logique des transformations politiques et culturelles déjà accomplies, la fondation de la colonie de l'Akra, préliminaire, celle-ci, étant en quelque sorte la mise en place d'une dernière pièce du mécanisme qui devait déclencher cette réforme. Avec l'installation d'une garnison qui était composée sans doute en majorité d'éléments syro-phéniciens, le temple de Jérusalem est généreusement ouvert à la nouvelle cité, à la polis grecque, peuplée de Grecs, d'orientaux hellénisés, de Juifs modernistes. Le temple reste toujours la demeure du tout-puissant Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sera désormais vénéré sous une forme nouvelle, une forme moderne qui combine curieusement les idées de l'Amphcléron grec avec les anciens rites syriens. Son nom ineffable est traduit de manière intelligible pour ses nouveaux adeptes. Et c'est pour leur commodité que son autel est surmonté d'un autel de Baal, aménagement technique interne qui passera dans l'histoire sous le nom d'abomination de la désolation. Tout cela est parfaitement conforme aux règles d'hospitalité et d'échange qui président aux pratiques religieuses dans le monde hellénistique. En Égypte, Horus est devenu Apollon pour les immigrants grecs. Amon, Zeus. Thoth, Hermès. Hathor, Aphrodite. À Jérusalem, le dieu anonyme des Juifs est devenu Zeus Olympien pour les Grecs. Baal Shamem pour les Orientaux non-Juifs. Il n'a pas été chassé par les dieux des autres, titre de notre colonne. Il a été assimilé à eux. Et pour les intellectuels juifs progressistes de l'époque, cette assimilation est une chose qui va absolument de soi. D'après l'auteur de la lettre d'Aristée, juif hellénisé, qui écrit sous un pseudonyme grec, juifs et grecs adorent le même Dieu, souverain maître et créateur de l'univers, à la seule différence près qu'il l'appelle par des noms différents. Pour les réformateurs radicaux de Jérusalem, Dieu du ciel, maître du ciel, Zeus Olympien, sont des désignations équivalentes de la même puissance divine, unique et suprême. Pas de polythéisme, tout au plus une théocratie à tendance syncrétiste. Ce n'est pas encore la Palestine laïque et démocratique. Juifs, chrétiens et musulmans sont promis à une heureuse coexistence, mais on s'achemine déjà vers cette solution. Voilà comment les réformateurs entendaient lutter contre le séparatisme juif, considéré par les Grecs comme le signe typique d'un mode de vie barbare, et reconnu, vous venez de le voir, comme la principale parmi les sources des malheurs d'Israël dans le programme politique d'alliance avec les nations dont l'auteur du premier livre de Maccabée se fait l'écho. Pour les tenants de la religion ancestrale, cette modernisation du culte n'était évidemment qu'une souillure inexpiable. Elle soulève immédiatement la résistance des traditionalistes, à laquelle répond aussitôt l'édit royal de décembre 165. Et c'est là que nous touchons à la très délicate question de savoir sur qui retombe la responsabilité de la persécution ordonnée par cet édit. Sans doute cette responsabilité peut-elle apparaître comme un moyen maladroit de mettre un terme au trouble, un moyen utilisé par le roi Antiochos, qui formellement est l'auteur de l'édit. Il est vrai, contrairement à une tradition ancienne, qu'Antiochos Épiphane ne cherchait pas à imposer, je viens de le dire, imposer à tous ses sujets une religion unique. L'hypothèse d'un tel énothéisme impérial est très peu vraisemblable. Tout au plus, serait-il enclin à favoriser une tendance vers l'unité et à donner une apparence commune aux divinités locales. À cela, les réformateurs hellénistes de Jérusalem ont déjà répondu par les transformations introduites au temple, comme le font de leur côté les Samaritains, qui proposent spontanément au roi de placer le sanctuaire du mont Garizim sous l'invocation de Zeus, Zeus Xenios ou Hellenios, Zeus Kant. Qu'une partie de la population juive refuse cette innovation et se soulève, restée fidèle à la foi ancestrale, on comprend que le roi, excédé par l'agitation qui trouble la Judée depuis quelques années, décide de frapper durement les rebelles. Mais pourquoi, au lieu de les exterminer simplement, faut-il leur interdire la pratique traditionnelle de leur religion? Le regretté Elias Bickerman a proposé une réponse qui reste, je le crains, la seule acceptable. Elle consiste à voir dans la persécution religieuse l'achèvement logique de la réforme moderniste entreprise par Jason, Ménélas et leur parti. Ménélas et son parti sont des hommes résolus qui vont au bout de leur programme. Ces juifs modernes, ces juifs éclairés ont honte, c'est un sentiment qui est très ancien dans le judaïsme, honte d'un judaïsme archaïque, exclusif, rétrograde. Après avoir aménagé le temps et les cultes dans un sens conforme à l'esprit du temps et aux tendances de la politique royale, ils entendent extirper la racine du mal qui perdure dans le particularisme juif. Ils sont contre la cachoute, qui contredit les règles de la convivialité hautement valorisées par le monde antique. Ils ont, depuis longtemps, en aversion, la circoncision, coutume barbare, qui au gymnase expose les effets juifs aux moqueries de leurs compagnons de jeux païens. Ils rejettent le repos sabbatique, qui paralyse la liberté d'action et nuit au développement du commerce. La persécution incompréhensible dans le contexte païen, devient tristement clair à la lumière de cette hypothèse. Le caractère strictement local de la persécution est ici un argument de poids. La persécution ne touche en effet que la seule Judée, territoire qui relève de l'autorité du grand prêtre. D'autres juifs, et ils sont nombreux dans l'empire des Séleucides, ne sont pas inquiétés. Du reste, Ménélas est explicitement mis en cause par l'auteur du deuxième livre de Maccabée qui le blâme comme le responsable de tous ces troubles. Mais pour une telle opération, qui, du fait de la résistance orthodoxe, intéresse directement le roi soucieux du maintien de l'ordre dans une province de son royaume, Ménélas a besoin d'un état. Trois siècles plus tôt, 458, l'Achéménide Artaxerxès ordonnait aux Juifs, par un autre édit, d'obéir à leurs lois codifiées par Ezra. Ménélas est un anti-Ezra et Épiphane et son Artaxerxès. Ezra et Néhémie avaient séparé les Juifs des autres peuples pour sauvegarder le monothéisme. Jason et Ménélas ont recherché un aggiornamento du monothéisme pour libérer le peuple juif de son isolement. L'on peut imaginer ce que serait devenu le judaïsme si la révolte des Maccabées avait échoué. Une forme philosophique, le peuple de philosophes, rappelez-vous, une forme philosophique du culte universel d'un Dieu qui est au ciel, débarrassé des entraves d'une orthodoxie jugée périmée et adaptée au contraire au postulat généreux d'une société moderne ouverte à la fraternité des hommes dans un monde étonnamment proche du nôtre. La victoire de Maccabée a refermé cette ouverture périmée. Elle a ramené le peuple juif sur la voie tracée par les prophètes. Elle a opéré en même temps une séparation salutaire entre religion et culture. La religion ancestrale étant désormais à l'abri des réformes, la civilisation hellénistique n'est plus un danger mortel pour le judaïsme. Il peut se fortifier en contact de la culture grecque, lui emprunter ses méthodes de raisonnement, intégrer ses modèles de comportement politique. Le petit-fils de Mattathias Maccabée est un prince hellénistique. Le chemin qui mène de la lutte pour la défense de la foi à une royauté de type grec paraîtra peu recommandable au fondateur du judaïsme rabbinique. La chronique de la dynastie Hachmonéenne sera écartée du canon biblique. Au souvenir peu glorieux d'une réforme moderniste outrancière, la tradition substituera l'image, historiquement absolument fantaisiste, mais rassurante dans son dénouement, d'un roi fou entreprenant de convertir par la force les juifs au paganisme. Mais le vrai mérite de Maccabée n'est pas d'avoir vaincu un roi païen, c'est d'avoir sauvé le judaïsme autant d'une ouverture suicidaire vers un monde païen trop attrayant que d'un repli sur soi-même à la longue tout aussi pernicieux. Et c'est à cela que nous fait penser la bénédiction de Hanouka, rendant grâce au Seigneur pour les miracles qu'il a fait en faveur de nos aïeuls en ces jours-là, en un temps pareil. Cher Sanissi, la Roteino, Bayamim Rahel, de la Zemana Nazé. Amen.